un bruit des ouvriers continue à augmenter. Et cette cave nous montre évidemment le processus de la métropolisation. Ça s'est confirmé qu'on voit une augmentation des cadres, des professions intermédiaires, mais en même temps avec une chute des ouvriers en proportion. Mais tandis qu'on voit quand même que, même à la fin de la période, que les ouvriers en courbe bleue est toujours à part à peu près égale que les employés. Mais tout est supérieur des autres, des cadres supérieurs et des professions intermédiaires. Et voilà, les courbes en nombre bru nous montrent évidemment, qui confirme aussi à notre première hypothèse que même si les ouvriers diminuent en proportion, ils continuent tout à fait en nombre bru. Et dans un deuxième temps, quel est l'effet de la métropolisation sur la structure spatiale, résidentielle, mais aussi sociale, que nous posons deux hypothèses, deux autres hypothèses. Le deuxième, c'est que le centre urbain, comme Longwy, Thionville et Metz, connaissent une gentrification plus importante que les communes rurales. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée des cadres supérieurs, des professions intermédiaires, que ces professions qui sont considérées plus avantageuses que les ouvriers, que les employés choisissent plus d'habiter dans la ville parce qu'ils cherchent évidemment les services, c'est plus facile de se situer d'habiter dans une ville qui est près des supermarchés, qui est facile pour amener les enfants à l'école, etc. Du coup, la gentrification des centres urbains, c'est plus importante que les communes rurales, qui est un peu éloignée de tous les services. Et ensuite, la troisième hypothèse, c'est que les communes qui accueillent historiquement les frontaliers connaissent une gentrification plus modérée, parce qu'il y a des études, notamment par Philippe Gerbert, Christophe Henault, sur la culture résidentielle qui persiste un peu dans... J'essaie de formuler autrement, c'est que la culture résidentielle d'une commune dans le passé peut persister jusqu'au présent. C'est-à-dire que, par exemple, si on peut prendre un exemple de Longwy, mais aussi Thionville, que ces deux villes sont historiquement beaucoup, beaucoup habitées par les ouvriers qui travaillent dans l'industrie sidérurgique franco-luxembourgeoise. Que maintenant, on va poser la question, est-ce que ces communes, ces deux communes, vont accueillir plus d'ouvriers que les cadres supérieurs, ou la gentrification qu'ils connaissent sont plus ou moins rapides que les autres. Et à partir de cette idée-là, on a pu construire des catégories socio-spatiales qu'on distingue tout d'abord deux catégories, c'est les centres urbains et les communes qui sont en périphérie, qui sont rurales. Pour les centres urbains, on a distingué Longwy, Thionville et Metz, et pour les autres communes, on a surtout constitué deux catégories à partir de la présence résidentielle des frontaliers. C'est-à-dire que dans le temps, pendant toute la période, depuis 1968 jusqu'à 2013, il y a des communes rurales ou périphériques qui sont habitées par les frontaliers et il y a d'autres qui ne sont jamais habitées par les frontaliers, par exemple. Du coup, les communes qui sont habitées par les frontaliers, on peut qualifier comme communes frontalières, les autres non frontalières. Et parmi les communes frontalières, on distingue encore deux communes qui sont des communes, on dirait, ce qu'on appelle les communes d'accueil constant. C'est-à-dire que pour tous les 7 recensements, rappelons-nous, on a pris les sept fichiers de recensement. Pour tous les 7 recensements qu'on a utilisés, on constate toujours l'habitation des frontaliers dans ces communes. Ce sont donc les communes qui sont près de la frontière franco-luxembourgeoise, qui sont en bleu foncé. Tandis que d'autres qui sont de temps en temps habitées par les frontaliers. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'année 1968, ces communes habitées par les frontaliers, mais le recensement ensuite, on ne constate plus l'habitation des frontaliers, mais le recensement suivant, on constatait de nouveau l'habitation des frontaliers. Du coup, on appelle les communes d'accueil courant ou fluctuant. Et pour cette carte nous permet de témoigner un peu, d'observer un peu la localisation géographique des catégories communes. Par exemple, Metz est en orange qui se situe un peu éloigné de la frontière franco-luxembourgeoise, mais Longwy, c'est tout à fait de part de la frontière. Thionville est toujours proche de la frontière entre la commune en bleu d'accueil constant et Metz. Et pour faciliter la comparaison entre les communes, les caractéristiques sociales du peuplement, on a aussi reconstitué des classes sociales. D'abord, on a distingué deux classes, la classe favorisée et la classe défavorisée, ou moins favorisée. La classe favorisée se constitue des cadres supérieurs et professions intermédiaires, et la classe défavorisée, ce sont des employés et des ouvriers. Et après, la reconstitution des diplômes, parce qu'il y avait vraiment un changement de conception à partir du recensement des années 70 jusqu'à nos jours. Il y a des diplômes qui changent le nom, il y a des diplômes qui n'existent plus aujourd'hui. Du coup, pour faciliter ça, on a reconstitué des diplômes en moins de bac, bac et bac plus. Et voilà, ça c'est l'évolution du nombre des classes sociales et du nombre de personnes qui sont titulaires de différents diplômes. Pour les courbes à gauche sont surtout les classes sociales et à droite sont les diplômes. On a pu constater que dans toutes les catégories socio-spatiales, dans toutes les 5 catégories, on voit une croissance partout de la classe favorisée. À gauche, vous voyez, c'est la courbe en rose ou en fuchsia, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une gentrification de la région. Mais on a vu aussi, la gentrification n'est pas égale. Metz est un exemple par excellence. On a vu qu'il y a vraiment fortement gentrification dans le peuplement des frontaliers, que le nombre de la classe favorisée dépasse celui du moins favorisé. Mais c'est en bas à gauche. Et Thionville, presque est par égal entre les deux. Et Longwy aussi. Il a connu aussi une gentrification, mais beaucoup moins forte. Qu'on voit bien que c'est le troisième, de haut en bas, à gauche, on constate une croissance des classes moins favorisées en bleu clair, qu'il y a toujours un écart important entre le nombre des classes favorisées. Voilà, tout d'abord, ça confirme partiellement notre deuxième hypothèse, c'est que les centres urbains qui connaissent une gentrification plus importante que les autres communes Par exemple, si on voit à gauche, le premier et le deuxième sont les communes d'accueil constant et sont les communes d'accueil courant. Ces deux communes sont moins gentrifiées que Thionville et Metz. Mais par contre, ils sont plus gentrifiés que Longwy. Du coup, c'est une confirmation partielle. Tandis que cette confirmation partielle nous confirme notre troisième hypothèse, c'est que la culture résidentielle dans le passé de cette commune de Longwy persiste aujourd'hui. Parce que dans le passé, Longwy est beaucoup, beaucoup habité par les ouvriers, qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins gentrifié. Mais il y a quand même une différence entre Longwy et Thionville. Parce que Thionville a été aussi habité, beaucoup habité par les ouvriers, mais qui est beaucoup plus gentrifié. Et cette gentrification n'est pas simplement, comme Thierry a dit, ce sont les avantages économiques qui les tirent. Parce qu'on a vu aussi cette gentrification est accompagnée par la croissance de diplômes. Par exemple, Metz, on a vu que ce sont tout à fait le diplôme d'études supérieures en courbe rouge à droite. Qui connaissent une croissance très importante, mais et aussi à Thionville. Et pour les autres, que les communes d'accueil courant sont plus habitées par les diplômés que les d'accueil constant. Rappelons-nous que les communes courantes qui sont en bleu foncé sont tout à fait de part de la frontière, sont très très proches. Dans un deuxième temps, on a construit aussi une méthode spatio-temporelle que nous voudrions connaître le processus de cette reconfiguration de l'espace. Du coup, on a construit deux types de communes, c'est la commune rapprochée et commune éloignée, mais pas par la distance géographique. Cette fois-ci, on se base sur la croissance démographique. Par exemple, pour les communes rapprochées, on a dit qu'il y a des communes qui, dans le temps, gagnent, qui tirent plus d'habitants frontaliers pour y habiter. Du coup, ils sont démographiquement rapprochés, tandis que d'autres sont des communes éloignées qui perdent des frontaliers. Et on a aussi divisé la période en deux. La première, c'est des années 82 jusqu'à 99. C'est le début de la métropolisation, le début de la croissance métropolitaine, où le Luxembourg a connu sa reconversion économique. Et la période deux, c'est la période plus récente où la croissance des frontaliers se relativise. Et dans cette carte-là, ça c'est l'évolution des rapprochements et éloignements démographiques des communes entre 82 et 99. On voit que cette carte correspond tout à fait à notre carte précédente sur les catégories socio-spatiales, que les communes qui sont constamment rapprochées en gris foncé, on voit que sont tout à fait près de la frontière. C'est-à-dire que ce sont ces communes qui sont près de la frontière qui se situent un peu dans l'axe du transport principal Metz, Thionville, Luxembourg, qui attirent beaucoup plus de frontaliers. Et cette dynamique de configuration change dans un deuxième temps. Voilà que les communes constamment rapprochées sont beaucoup, beaucoup éloignées, dispersées de la frontière, mais ce qui nous impressionne, c'est qu'il y a des communes constamment éloignées, c'est-à-dire les communes en rouge, qui perdent consécutivement les frontaliers. C'est-à-dire que même si il est près de la frontière, il y a de moins en moins de frontaliers qui y habitent.
Très rapidement, pour la conclusion, c'est tout simplement, quand on voit une carte comme celle-ci, les logiques spatiales commencent à être particulièrement complexes, notamment une commune qui, dans la pratique de résidentielle, serait considérée comme proche parce que, avant tout, il y a beaucoup de frontaliers qui s'y installent. Eh ben, on s'aperçoit que géographiquement, quand elle est proche, elle n'est pas forcément proche du point de vue des pratiques. On ne peut pas la qualifier de proche du point de vue des pratiques et notamment des pratiques résidentielles. Donc là, vous voyez bien que il faudrait à nouveau avoir la même analyse de graphique sur quels sont les, en termes de diplômes, de professions, etc., qui y habitent et faire une analyse assez fine, notamment des communes qui diminuent en proportion de transfrontaliers qui y résident. Mais on a là des rapports sociaux extrêmement complexes qui, on pense, vient aussi organiser cette carte-là. Et on ne peut pas, cette fois-ci, la comprendre uniquement d'un point de vue spatial. Donc, je crois que je m'arrête là et ça résonne un petit peu avec ce que vous disiez au départ, donc l'importance des pratiques. Hein, nous, on s'est appuyé là-dessus, la pratique résidentielle de l'habitat. Et puis, quel défi face à ces formes d'habiter qui se diversifient, qui sont dans la longue distance de plus en plus, finalement. Merci.
Vous m'entendez ? Oui. Merci pour cette première présentation qui, je pense, est vraiment éclairante, qui nous permet, dès le départ, finalement, de dissiper peut-être un malentendu ou une idée qu'on aurait, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où on a un déterminisme topologique simple, vous l'avez très bien montré, et que les rapports sociaux sont éminemment important pour comprendre effectivement ce qui s'y passe dans ces territoires. Donc on va avoir quelques minutes justement pour entendre les questions et que vous puissiez y répondre. Donc dans la salle. Jérôme Boissonnade.
Oui, donc vous avez étudié donc l'évolution des pratiques. Est-ce que on pourrait imaginer que finalement cette évolution des pratiques, où on voit que dans certaines villes on a une constance de ces pratiques et notamment des catégories sociales populaires. On voit que là, pour Longwy, par exemple, qui est très proche de la frontière, on voit que ces pratiques transfrontalières baissent en tendance, hein, si je comprends bien. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement, quelqu'un qui habite à Longwy, par exemple, qui est de classe populaire, qui est transfrontalier, voit ses revenus augmenter et finalement est une logique de déplacement dans des communes valorisées dans la métropole et donc qui expliquerait que finalement les classes populaires qui en tendance grâce aux pratiques transfrontalières augmentent leurs revenus déménagent vers des communes plus valorisées et soit remplacé par des classes populaires qui, elles, ne pratiquent pas transfrontalière, et qu'on ait finalement un cycle dans lequel des classes populaires soient remplacées par d'autres, les anciennes classes populaires ayant, grâce aux pratiques transfrontalières, pu accéder à une ascension sociale et en tout cas communale.
Oui, merci pour cette question. Oui, cette carte pour la pratique résidentielle des frontaliers, on reste dans un premier temps socio-temporel. On connaît un processus de l'évolution démographique, mais sans, dans un premier temps, de creuser dans la dimension sociale. Du coup, on a constaté que, par exemple, comme vous dites, l'agglomération de Longwy, on a vu qu'il y a une perte constante des frontaliers, mais on ne sait pas encore quelles sont la structure sociale de ces frontaliers. Mais cette carte, on peut aussi voir, regarder avec notre analyse précédente que, par exemple, dans l'agglomération de Longwy, sont la plupart des habitants frontaliers à Longwy sont des ouvriers.
Par rapport à votre hypothèse, je la trouve intéressante parce qu'elle est sous-jacente aussi à notre travail, et j'irai assez dans votre sens dès lors que on est dans une ce serait une classe populaire qui serait soit stabilisée, ce qui serait important du point de vue de l'emploi notamment, soit en réelle ascension sociale. Et donc, du coup, oui, il y a des ajustements. On sait qu'il y a des ajustements résidentiels qui sont liés à la trajectoire sociale de la personne. Donc, très probablement. Et en même temps, en plus, on a remarqué qu'il y a des... on n'a pas pu aller encore assez loin pour l'expliquer, mais on a remarqué qu'à l'échelle du département, il y a des entre départements, il y a des asymétries en fait de transfert résidentiel. Alors je ne sais plus dans quel sens ça va, mais c'est une chose qu'on garde un petit peu en tête, c'est que en fait il y a des tout ne se fait pas au regard de du Luxembourg. Il y a aussi des échanges, notamment dans les pratiques résidentielles, qui se font horizontalement entre un département par rapport à un autre. Donc oui, je pense que vous avez raison. On peut imaginer cette... ça serait intéressant de regarder plus à fond cette hypothèse, quoi.
Bonjour, messieurs, dames. Donc, Pierre Vaufray, président de Haute. Je voulais simplement savoir si, en parallèle, on avait fait une étude de l'évolution des emplois côté France. Parce que pour être allé dernièrement sur la frontière luxembourgeoise, donc à Alzette-Belval, on s'est rendu compte que sur la frontière même, il n'y a même plus de commerce, y compris les grandes surfaces. C'est-à-dire que les gens vont travailler au Luxembourg et font leurs courses également au Luxembourg. Et je voulais savoir si, en parallèle, vous aviez étudié les emplois côté France.
Alors non, pas. Disons que on s'est vraiment cantonné aux frontaliers et aussi à essayer de comprendre quelles sont leurs pratiques pour comprendre leur mode de vie, donc leurs pratiques de consommation, etc. Dans tout genre. Donc, mais c'est vrai qu'on a on n'a pas l'évolution du tissu. Comment dirais-je, urbanistique en fait, du côté français, on l'a pas fait, non, ça c'est clair. Ce qui nous intéresse là pour le moment, c'est de regarder déjà. Alors, il y a énormément de raisons qui incitent. Jeanne nous le disait, les communes qui sont limitrophes au Luxembourg sont de plus en plus mises à l'écart, finalement. En tout cas, la croissance démographique ne repose pas sur les frontaliers, parce que cette part importante des classes sociales plus aisées, plus favorisées, plus diplômées, recherche plutôt à vivre en ville. Donc, est-ce que le processus va s'accélérer? Je ne sais pas. Nous, on fait l'hypothèse que, comme on vous l'a dit au départ, la métropolisation, ce n'est pas que des diplômés. Hein. C'est un ensemble. Hein. C'est toutes des différentes fractions de différents groupes sociaux, plus ou moins diplômés, plus ou moins argentés, plus ou moins, etc. Donc, je ne ferai pas de pronostic sur l'avenir, mais pour répondre clairement à votre question, on n'a pas cette information-là.
Oui, Pascal Ducournau. En vous écoutant, oui, je me demandais si ça n'aurait pas été utile, peut-être dans l'introduction, dans une perspective pédagogique, de définir la notion de métropolisation. Parce que c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourrait débattre. Enfin, en tout cas, du moins, du coup, quelle est vous-même la définition que vous utilisez dans vos travaux. Et puis, la deuxième question, elle est plus concernant éventuellement les croisements statistiques qu'on pourrait faire à partir des données que vous avez à disposition. Je pensais tout simplement à savoir si on pouvait croiser les CSP hein, avec le statut de transfrontalier ou pas transfrontalier. Est-ce qu'on trouve du coup des corrélations entre transfrontaliers et ceux qui ne le sont pas, ou alors à l'intérieur même des transfrontaliers, entre le nombre de kilomètres, par exemple, effectués par les uns et les autres. Du coup, ça donnerait peut-être plus de, comment dire, plus de profondeur encore sociale à vos résultats, il me semble. Enfin, voilà.
Pour la deuxième question, oui, c'est sûr que si on fait une comparaison entre les transfrontaliers et ceux qui ne le sont pas dans la région. Il faut y aller pas à pas. C'est-à-dire d'abord comprendre la dynamique des frontaliers sur une longue période, hein, quand même, depuis les années 80, on va dire, parce qu'on à partir de 68, on a des données, mais 1968, mais ce qui est intéressant, c'est à partir des années 80. Donc déjà, on s'est attaché à comprendre ça et évidemment, l'analyse complémentaire, c'est les saisir au regard des non-frontaliers, effectivement. Ça sera dans un second temps. Alors, sur la question de la métropole et du processus de métropolisation. Alors, j'ai avancé deux choses. C'est des processus qui sont, des processus de captation, finalement, de ressources. Hein, la métropolisation, on le voit comme ça. Captation des ressources de centralité urbaine pour les personnes. Et à l'inverse, pour les territoires, captation de ressources humaines, finalement, qui sont en circulation. Donc, arriver à capter comment le Luxembourg arrive à recruter depuis l'Alsace, par exemple, ou depuis, etc. Donc, c'est plutôt dans cet esprit, enfin, sous cet angle-là qu'on l'a abordé. Après... donc, nous, ce qu'on voit dans les études, c'est que la métropolisation, c'est plutôt l'observation des concentrations des ressources économiques et moins une concentration démographique. Ça reste un élément secondaire dans la manière dont c'est appréhendé, en fait. Hein. Alors après... j'avais sauté un petit paragraphe, mais en fait, il y a plusieurs manières finalement d'analyser la notion de métropolisation, hein, parce que C'est un mot qui a un petit côté fourre-tout aussi, hein, d'une certaine manière. On le voit bien, par exemple, maintenant, ne serait-ce que son usage. Et c'est intéressant de voir comment la notion de métropole et de métropolisation grandit, se diffuse, circule intensément, finalement, à la même période que la notion de mobilité. La notion de mobilité, elle aussi, devient même une évidence maintenant de parler de la mobilité, en plus de façon générique, alors qu'il y en a énormément. Mais c'est très fortement lié. Et du coup, le côté galvaudé fait que ça devient finalement... c'est utilisé comme une grille d'analyse pour les chercheurs, comme une démarche volontariste pour un élu, ou comme un processus de peuplement et de fonctionnement économique pour un démographe, pour un urbaniste. Donc, vous voyez, c'est difficile de lui donner une seule dimension d'analyse, en fait. L'analyse, elle va dépendre de qui en fait l'analyse bien souvent. Voilà un petit peu ce qu'on entend par métropole et métropolisation et comment on la situe dans notre travail.
Merci beaucoup.
Une étude est en cours qui durera 30 mois, je crois, portée par le Loter et le Liser sur la localisation des commerces. À la fois sur l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et la France. Donc normalement, si elle a été validée, cette étude est en cours pour comprendre comment se relocalisent les commerces, et notamment en centre-ville, dans les différents pays. Et ça interroge évidemment toutes ces questions de différentiel à la fois de prix et de lieu de consommation des uns et des autres en fonction de là où ils travaillent, là où ils habitent, et je pense aussi de leur pouvoir d'achat.